René Bazin, le comte du Triolet. Je voudrais dire l'histoire d'un grand gars de Normandie, telle qu'elle me fut contée, en douceur, avec des randonnées et des départs nouveaux, un jour que, du haut de la tour de Sainte-Marie-du-Mont, j'admirais de quelle verdure ininterrompue les arbres et les prés bordent les plages de la Hougue. Je ne sais pas en quel temps se passèrent les choses que voici, mais je pense qu'elles ne sont éloignées de nous que d'un petit nombre d'années. Pour la saison, elle me fut nommée, c'était l'automne. Il est pluvieux, dans cette presqu'île de 10 lieues de large, jetée en plein courant de la Manche et sur laquelle le vent mène et ramène le bord du nuage anglais. La pluie, la brume et la rosée s'entendent pour faire pousser l'herbe. Et puis, si le soleil paraît, nulle part le rire de la terre n'est plus éclatant. Nulle part non plus, le silence n'a autant d'heures à lui. Car on ne fait point de labour, les hommes sont peu nombreux, été ou hiver, tant de la mouche ou tant du gel, les vaches dorment dans les clos, leur gros ventre et leurs pies étalés, le mufle tendu, à l'odeur de la sève sans repos qui travaille le pommier et qui travaille l'orme et les ronces des quatre haies et le tapis mouillé de la pâture. Qu'est-ce qui passe par les chemins ? La carriole toujours peinte de frais ou la camionnette d'un fermier qui se rend à la foire de Valognes, l'automobile d'un châtelain en tournée de visite, un tombereau chargé de pommes, le troupeau de moutons que le transatlantique, après-demain, doit embarquer au bout de la digue de Cherbourg. Je vous le dis, les avenues de ce parc immense ne donnent guère de bruit à porter au vent qui souffle. La nuit, surtout, le silence n'a point d'ennemis. Il n'y a que la mer, parfois, dont la voix gronde. Et alors, la plainte qui s'élève de la Hague, à l'Occident, et celle de la Hougue, à l'Orient, se mêlent au-dessus du Cotentin et les ormes émondés les saluent de la tête au sommet des talus. Il est 4 heures du matin. Le vent est ailleurs, sur les côtes d'Irlande ou d'Italie. Les feuilles immobiles boivent par tous les pores, l'air saturé d'humidité. L'eau qu'on ne voit point tomber du ciel dégoutte de leurs lèvres et coule le long des tiges, des branches et des troncs. Sous terre, les fontaines s'emplissent pour l'été. Au bas de l'éperon de la Pernelle et de sa futaie s'étend une large bande de terre, boisée au commencement. Là se trouve, toute perdue au bord d'un sentier, entre deux pâtures qui ne sont point à lui, la maison d'Auguste Amby, l'ancien triolet de la ferme de Renivas, sur le plateau. Ce n'est pas riche, chez Auguste Amby. 2 chambres couvertes en chaume, un bout de jardin, un abri pour les lapins de choux, voilà le domaine. On y vit maigrement parce que la mère est souvent malade. Elle est levée pourtant. Elle a mis son jupon, son corsage, son châle, tout cela qui est, comme ses cheveux, couleur de cendre. Elle s'agenouille devant l'âtre, elle cherche dans le foyer, du bout de ses doigts qu'elle plie et détend en mesure, s'il reste de la veille quelques tisons brûlants encore, et quand elle a trouvé, elle approche de la braise une poignée de fougères et de menu bois, et elle souffle, toute courbée en avant, la tête engagée jusqu'au milieu de la cheminée, sous les étoiles qui voyagent là-haut. La bougie, dans le chandelier de fer, a été placée sur le carreau du foyer, et la flamme, pliée au courant d'air, tend sa langue vers la suie. « Auguste, il est 4 heures, lève-toi pour les bêtes !» La mère n'obtient pas de réponse, mais 10 minutes après qu'elle a crié ces mots-là, Auguste entre, haut comme un peuplier, obligé de se baisser pour passer sous le linteau de la porte. « Ton café est sucré, prends-le vite pendant qu'il est chaud. »« Bonjour, la vieille maman. Oui, je vais le prendre, c'est pas de refus. »« N'est-ce pas, il fera froid dans le clos. »« N'a-t-on pas l'habitude ?»« Je l'ai eu, moi aussi. À présent, je ne peux plus. » « Allons, assieds-toi, voilà le pain, voilà le beurre. » En parlant, elle regardait ses mains de laveuse, déformées par l'eau et qui avaient pris le tremblement de la source. Elle allongeait les bras et les deux mains tremblantes vers la chaise basse placée en face d'elle, de l'autre côté d'une table de bois blanc où fumait le bol de café. Dans l'âtre, les branches mortes du pommier brûlaient bien. Le grand gars s'était assis, tandis qu'elle tirait, de dessous le foyer, une chaufferette qui serait son siège à elle. Et la mère paraissait encore plus petite et plus menue, ainsi accroupie tout près de la terre, devant son grand-fils qui avait déjà taillé dans un pain de 6 livres une tranche longue qu'il brisait en morceaux au-dessus du bol. Il ne regardait que cette pauvre femme qui avait fini de vivre, en vérité, mais non de se plaindre, et ce regard disait « Qu'as-tu donc, ma pauvre maman, à tout redouter pour moi, pour toi, pour la maison, pour le jardin, pour les lapins ? Un gars de 28 ans, fait comme moi, c'est la vie assurée. Je travaille assez dur pour que, si tu viens à ne plus pouvoir faire tes journées de laveuse, rien ne soit en péril ici. Tu te reposeras. Voilà tout le changement qui adviendra. » Il ne disait point cela avec des mots, non, ses lèvres minces n'étaient entr'ouvertes que pour humer la vapeur du café. Nous avons vite pitié de nos parents, et les meilleurs de nous sont peut-être ceux qui ne le montrent pas trop. Auguste Ambi était un garçon très décidé, qui se faisait beaucoup de discours à lui-même, et n'exprimait les conclusions que le lendemain, le surlendemain, un mois, un an plus tard. En conséquence, il ne revenait pas souvent sur ce qu'il avait dit. Corps et âme, on aurait pu le citer comme un des représentants de la plus pure race de Normandie. Voyez cette petite tête et ce très long corps osseux, ses cheveux jaunes, ses yeux d'une eau si claire, où passent peu de pensées, mais beaucoup de vie, de mouvement, de fierté d'être jeune et fort. Ne croyez-vous pas qu'il a des cousins parmi les marins des fjords de Norvège et que ses ancêtres sont venus jusqu'aux landes et forêts de la presqu'île en barques à une voile ? Ce descendant de corsaire conduit des chevaux, coupe le foin, gaule les pommes et, aux heures libres, quand il le faut, à la nuit presque faite, bêche son jardin. La mère le regarde. Elle mangera plus tard, après le ménage achevé. Elle dit « Tu es dans ta force. Moi, je m'en vas. » « Tu n'en sais rien, maman ?»« Oh, que si ! Notre corps nous avertit de sa faim. Mais je crois que tu pourrais me faire durer un brin. » Le grand gars retire de ses lèvres le bol où il achève de boire son café et secoue la tête. « Tu vas encore chanter ton refrain. Pourquoi n'y réponds-tu jamais ? Je n'ai pas le cœur fait comme le tien, maman. Je ne dis pas tout ce que je pense. Que veux-tu donc ? Je voudrais que tu te maries. » C'est cela qui prolongerait la vie de la mère Ambi ? Sans doute, j'aurai du repos plus qu'à présent. Et quelqu'un avec qui causer, toi qui aimes bien ça. Il posa le bol vide sur la table, frappa ses mains l'une contre l'autre et reprit d'un air à demi plaisant, mais la mère ne s'y trompa point et reconnut le son majeur de l'âme. Faudrait d'abord en avoir une à qui on pense. Il n'en manque point qui dirait oui. Dis-les pour voir. La petite Piquenotte, parce que je lui ai donné une épingle d'or, elle m'avait remplacée dans la pâture 2 journées quand j'ai eu la fièvre. Voilà tout. Virginie Pied-Daniel, la fille d'un fermier, tu n'y penses pas, maman, un pauvre diable de valet comme moi. La mère se leva, mécontente, prit le bol et l'assiette et les porta jusqu'à l'évier qui se trouvait au bout de la chambre. On entendit le bruit de l'eau jaillissant, puis celui des doigts mouillés sur la faïence, tandis que la femme commençait d'essuyer la vaisselle avec le torchon. La voix reprit. « Alors, c'est une pauvresse que tu courtiseras ?»« Ça se peut, maman. »« Toi qui n'as rien ?»« Rien, tu oublies la maison. »« Ça fera un joli ménage au bas de la Pernelle. »« Voyons, si tu avais à choisir, quel nom dirais-tu » ?»« Marie Le Hartel. » « Celle qui a été triolette, à côté de chez ton patron ?»« Oui, il y a 3 ans, à la duquerie, chez Mouchel. »« Qui n'a pas eu seulement la santé de continuer ?»« On le prétend, mais elle a bonne mine à ce que disent d'autres. »« Celle qui s'est mise en place ?»« Oui. »« À Valognes, chez Mademoiselle Rivière ?»« Au revoir, maman, à ce soir. » Un moment après, la porte criait en tournant. Une charretée d'air froid entrait dans la chambre, la cendre du feu remuait. Puis, le bras puissant qui avait ouvert la porte, d'une détente rapide, la refermait de même. Auguste, en 4 enjambées, eut dépassé l'angle de la maison et même la bande de terre que le toit de chaume, avançant, protégeait et maintenait sèche. En 2 de ses grands pas, il atteignit la limite du jardin. Là, il se pencha pour soulever le loqueton de la petite barrière qui donnait entrée dans le domaine et fut tout aspergé, des épaules jusqu'aux souliers, par les buissons de ronces qui tendaient l'un vers l'autre, aux deux côtés de la barrière, leurs grappes de mûres luisantes. « Faudra que je taille ces cheveux-là, » dit le grand gars. Il ferma soigneusement la barrière et s'enfonça dans le sentier qui tournait d'abord en terrain plat, puis montait à flanc de coteau vers la Pernelle. Il allait posément, sans regarder ailleurs que devant lui. À quoi bon se détourner? Il était dans un banc de brume. Cependant, habitué à ses formes changeantes, il croyait sentir, dans le nuage, des mouvements qui annoncent le jour. Parvenu au premier palier de la Pernelle, il ralentit le pas et tourna la tête et la leva. Par un créneau que taillait l'air marin, dans le château bien emmuré de la brume, il aperçut, très loin, des clapotis sombres, un phare, une tache morte qui pouvait être une île et une étoile au bas d'un ciel très court. C'était son habitude de reprendre haleine à cette moitié de la côte. L'endroit lui plaisait à cause de la mer dont il avait ainsi des nouvelles et pour une autre raison. Là se trouvaient, en ligne, sur le bout de l'éperon, les deux monuments de la commune, la mairie, qui ressemble à une cabane de douaniers, et l'église, avec son cimetière et son enceinte de murs anciens. Il y a des ormes tout autour, une vraie petite futaie, mais il n'y a point de maison, et la chance est petite d'y rencontrer quelqu'un. Auguste Ambi, comme chaque matin, agita sur son front, sans la soulever tout à fait, sa casquette pour saluer la terre des morts, et peut-être Dieu qui veille là, seul parmi eux, avec la petite lampe. Son second regard fut pour la tour de l'église. Sans doute vous ne la verrez jamais, il est aisé, heureusement, de l'imaginer, une tour carrée dont le granit est partout tacheté de lichen jaune et qui n'a de toit en pierre taillée bien entendu, que sur deux façades, à l'est et à l'ouest. Des deux autres côtés, c'est le mur qui monte et fait pignon. Ce toit en accent circonflexe, ce livre ouvert posé au sommet d'un pilier rectangulaire, les vieux Normands durent l'aimer. On peut le voir au-dessus de l'église de Saint-Fromont, à Couvain, à Briquebec, au Ham, à Saint-Léonard-de-Vin, à Sainte-Mère-l'Église, à Gréville ou Fumillé, autant dire dans toute la presqu'île. Le grand valet de M. Landelin s'intéressait peu à l'architecture. Sur l'arête du toit, qui dépassait en hauteur les ormes, il cherchait la première lueur que le matin, à travers la nuit, envoie vers les lieux hauts. Il crut la reconnaître, il n'était pas sûr. Il dit « La hougue va s'éveiller, m'est avis. La vieille prudence moyon sera au clos avant moi. » Vite, il se remit en marche et continua de monter entre des talus de saules jusqu'à la lande qui est rase en forme de carapace et domine tout le pays côtier. Là, il ne douta plus. La brume blanchissait à l'horizon sur la Manche. Coupant au plus court et sautant par-dessus les ajoncs, il descendit de l'autre côté de la colline, traversa des pâtures enveloppées dans les ténèbres blanches et entra dans la cour de la ferme. Les fenêtres du pavillon où logeait le fermier, près de la barrière, au poste de guet, étaient encore fermées. Le valet, pour ne pas être entendu, posa le pied sur les plaques de fumier ou de boue, entre lesquelles se levaient des pointes de galets. Il ouvrit la porte de l'écurie et harnacha son âne. Qu'allait-il faire avec son âne? Une chose que beaucoup d'hommes de 28 ans n'auraient point accepté de faire. En ce pays du Cotentin, les jeunes qui se gagent dans les fermes commencent souvent par traire les vaches. C'est un rude métier. Avant le jour, en automne et en hiver, au petit jour dans les saisons de lumière, il faut être dans la pâture où les bêtes ont passé la nuit, prendre les grosses cruches de cuivre qu'on avait chargées sur le dos de l'âne et, quelque temps qu'il fasse, par le froid, la gelée, la pluie, la brume, s'agenouiller dans l'herbe et traire 7, 8, 10 vaches du troupeau qui arrivent l'une après l'autre, en ordre invariable, du bout du clos, lentes, les jambes écartées, pour être délivrées de leur lait. À midi, il faut retourner dans la pâture et, une fois encore, à la nuit venant. Dans l'intervalle, le triolet a nettoyé les cruches avec de l'argile. Il a eu soin de donner aux porcs leur ration de pommes de terre bouillies et de petit lait. On l'a vu trotter de droite et de gauche, dans les étables, les greniers et les cours, aux ordres du fermier, de la fermière ou des grands valets. Son rêve est donc de devenir, à son tour, grand valet, c'est-à-dire charretier, un peu bûcheron, et mondeur d'ormes dans le temps où la sève dort et cueilleur de pommes vers octobre, quand commence la fabrication du cire, la vendange de là-bas. Il n'y a guère d'exemple qu'un garçon bien doué et ambitieux aille encore, après 18 ans, traire les vaches dans les clos, tandis que les vachères sont de tous les âges et qu'on en rencontre de toutes vieilles qui n'ont jamais eu d'autre métier. Augustin Bi, lui, était resté dans le triolage jusqu'au service militaire. Ses camarades l'avaient plaisanté, d'abord, de ne point faire comme eux. Puis, comme l'homme étant de haute mine, beau et redoutable, il avait 3 ou 4 fois dans les prés empoigné et fessé jusqu'au sang ceux qui se moquaient, les gens des fermes voisines, les femmes surtout, se mirent à le considérer avec une secrète admiration comme un original, mais plus habile que tout autre en son métier. Dans la contrée, il n'y eut bientôt plus un enfant qui ne sut qui était le triolet de Renivas. On l'appelait à l'aide dans les cas difficiles. Une génisse folle était-elle sortie du clos et menaçait-elle, de ses 2 cornes abaissées et pointées savamment, tous ceux qui approchaient? Fallait-il rétablir un pont de madrier qu'un des lents ruisseaux qui vont à la mer, tout à coup gonflés, avait emporté? Ou bien ferrer un jeune cheval tenu à la longe, dans l'herbage, et dont personne ne réussissait à saisir et à lier le jarret? Il y avait toujours quelqu'un pour dire « Allez quérir Auguste de Renivas. Vous n'êtes bon à rien, il est bon à tout. » La légende même le guettait. Comme il était fort ménagé de son bien et ne changeait de vêtements que si la trame et la chaîne ensemble étaient usées, on l'avait vu, en ce temps-là, porter toujours le même complet de velours à côtes, déteint par l'air et l'eau, devenu couleur de terre délayée, sauf à l'endroit des genoux, qui avait, à la longue, pris la couleur de l'herbe où Augustin Bi restait tant d'heures agenouillé. On le nommait souvent, en souvenir, l'homme genou vert, et lui, il se faisait gloire de cette seigneurie-là, et il lui arrivait encore, à présent qu'il était devenu grand valet chez Maître Landelin, de mettre le pantalon taché par l'herbe de Normandie. Les longues heures de solitude dans les pâtures, parmi les bêtes, n'avaient pas laissé mauvais souvenir à ce silencieux. Aujourd'hui même, par camaraderie, par obligeance, par vanterie aussi, il avait accepté de remplacer l'une des 2 vieilles vachères de Renivas, la Debrise, qui était allée aux noces pour 3 jours du côté de la Hague. 5 heures sonnaient au clocher de Valcanville, lorsqu'il fit tourner la barrière légère du clos. À travers le brouillard dilué dans le vent du matin, les 10 vaches que la vieille Debrise avait l'habitude de traire vinrent d'elles-mêmes remplaçant. Déjà, l'âne, attaché à un pieu, broutait. Les 3 cruches de cuivre poli qu'il avait apportées sur son dos reposaient le long de la haie. Le triolet en prit une, flatta de la main gauche une jeune vache à son premier veau, une vache blanche et fauve, puis, se laissant aller sur les genoux, qui s'enfoncèrent dans l'herbe épaisse et trempée, il se mit à tirer le lait qui giclait à l'intérieur du vase et faisait sonner la paroi du métal. 2 heures, sans arrêt, il travailla. Il avait le visage et la poitrine en sueur et les jambes glacées, car elle baignait dans une rosée abondante que rafraîchissait encore le vent de l'aube et de la marée. Il se hâtait de traire la dernière vache, qu'on appelait demi-deuil, parce qu'elle avait la queue noire et tout le reste du corps blanc. La brume s'était repliée sur la mer et y voyageait, roulée en grosses boules. En grimpant sur la Pernelle, on aurait entendu les sirènes, mais la cime des Ormeaux était couleur de flamme. Auguste avait l'habitude de ce froid qui engourdissait ses maigres mollets. Il ne se plaignait pas, cependant, car la vachère de la ferme, la vieille Prudence, ayant fini l'ouvrage et libéré ses vaches, était venue, lasse, rouge, renouant le foulard dont elle s'enveloppait le cou, s'asseoir à droite de son ancien compagnon. Ensemble, pour commencer, ils avaient parlé un peu du temps, des bêtes et de Maître Landelin, qui ne voulait pas augmenter les gages de ses triolets. Et les mains d'Auguste, les mains gercées et souples douloureusement, tiraient en mesure les cordes de la grosse cloche rose où demi-deuil serrait son lait.
200 francs par mois, ils ne veulent pas donner plus, pourtant on les gagne bien.
Oui, répondait le valet, on les gagne, je me souviens, surtout il n'y a pas de congé.
Le lait n'a pas de dimanche, mon pauvre garçon. Il faut que ça coule. Tenez, quand Marie Le Hartel, vous savez bien celle de la Duquerie, a quitté le métier, je crois bien que c'était la raison. Elle a voulu du bon temps et elle s'est mise en place. J'ai entendu dire autre chose.
Quoi donc ?
Que le patron la courtisait et la fille est fière. Pas causante entre nous, pas causante entre nous.
En disant ces phrases-là, courtes et pleines de sens, il tenait les yeux baissés vers la cruche, d'où un rayon de soleil, ayant touché la panse de cuivre, rejaillissait en éclaboussant sur les mains de l'homme et sur les ruisseaux de lait coulant. Il revivait évidemment une minute morte que lui seul dans le monde, et peut-être Marie, avait le pouvoir de ressusciter. La Vachère, que le bavardage reposait, croisait les bras sur ses genoux. Elle était assise, elle, sur un escabeau à trois pieds. Son lot de vaches laitières avait déjà pris du large et paissait dans l'herbage. Comme elle se croyait fine, elle se tut un moment pour mieux étudier la physionomie de son compagnon de travail et, enragée de connaître le secret, de savoir au moins s'il y en avait un, elle demanda
« Vous l'avez revue plus d'une fois depuis qu'elle est à Valognes ?»«
Bonne foi, non. » « Je n'y vais pas souvent à la ville, et quand j'y vais, je fais les commissions du patron, je fais les miennes, je bois mon café et je m'en reviens. »«
Je crois qu'elle est bonne à tout faire chez une demoiselle d'âge. »«
Ça se peut. »«
Vous la regardiez passer par-dessus les haies quand elle était ici. » »«
On regarde ce qui remue, n'importe quoi, même vous, Prudence. » »«
Oh, moi, quand on me regarde, c'est qu'on se trompe et ça ne dure pas. » Mais elle, en voilà une belle jeunesse.
Il y en a qui le disent.
Bien faite et fraîche, je crois la voir, aussi grande que vous.
Je n'ai jamais mesuré.
L'air de moquerie d'Auguste Ambi agaça la Vachère. De ses mains assemblées portées à sa nuque, elle souleva l'édifice de ses cheveux déteints par l'âge et collés en mèche par le brouillard. C'était son avant-dernier orgueil, cette chevelure encore lourde. Car on ne peut jamais dire quel sera le dernier.
Vous êtes d'un mauvais tour ce matin, Auguste. C'est peut-être parce que vous êtes arrivé en retard.
Moi, je rentre. Vous rapporterez bien mes cruches avec les vôtres, n'est-ce pas? C'est le petit vacher qui les a portées sur sa brouette jusqu'ici.
Bien, bien, ma vieille, on fera deux tours avec l'âne.
Elle s'éloigna, essuyant aux touffes d'herbe les taches de lait de ses côtes.
« Et puis, vous savez, on ne vous parle plus de Marie Le Hartel, puisque cela vous fâche. »«
Oh, pas du tout. »
Prudence ne fut pas plus tôt revenue à la ferme qu'elle s'empressa de répéter la conversation qu'elle avait eue avec Auguste Ambi, de plaisanter ce Normand cachotier et de raconter de prétendus souvenirs qui n'étaient qu'histoires inventées.